Boker Tov. Quand on fait l'Amida, bien que l'Amida c'est qu'une mitzvah de Rabbanan, et Kriyat Shema c'est une mitzvah de la Torah, de Oraita, néanmoins l'Amida a un élément supplémentaire que le Shema Israël n'a pas, c'est qu'on est en face de la Shrina, on est en face de Dieu. Cette mesure, on doit être debout, les pieds joints, et se comporter comme un serviteur devant son maître. Quand on fait Kriyat Shema, on doit être aussi en situation de crainte de Dieu, parce qu'on prend sur soi le joug céleste. On ne peut pas, pendant qu'on fait Kriyat Shema, faire autre chose que dire les mots qu'on dit. Dans la Midah, c'est encore plus grave, à mesure où c'est même comme on est habillé. On ne peut pas être habillé n'importe comment. Je peux faire Kriyat Shema habillé, je peux aller en Bermuda, et en chemise courte et faire Kriyat Shema. C'est permis. La Midah, c'est interdit. Pourquoi ? L'Amida, étant donné que je suis maintenant devant Hachem, je ne peux pas aller devant Hachem, le roi des rois, qui est un roi qui doit inspirer la crainte, et aller, Koul Abdoul, comme on dit, prier devant lui. D'accord ? Je dois m'habiller au moins comme je vais m'habiller quand je vais voir quelqu'un d'important. Quelqu'un qui va voir un PDG, ou il va voir, je ne sais pas moi, le maire de la ville, d'accord ? Il va s'habiller bien comme il faut bien. Le maire de la ville qui, entre nous, est un nul, d'accord ? Je ne sais pas de qui je parle, mais d'habitude, je n'ai personne, je n'ai rien contre les maires des villes, d'accord ? Mais c'est incomparable par rapport à Hachem. Or, chose paradoxale et fausse, les gens, quand ils vont voir le maire de la ville ou un PDG, eh ben, ils s'habillent bien comme il faut, et quand ils vont devant Hachem, bon, ça va, lui et moi, on se comprend, d'accord ? C'est pas vrai. C'est vrai qu'il est notre père, mais il est aussi notre roi. On ne peut pas aller devant un roi comme si on va voir son copain. Donc il y a une importance de s'habiller comme est la coutume des gens dans cet endroit de s'habiller. Par exemple, je demande la question à Rabbi Shlomo Machon Zassal, est-ce qu'on doit mettre une veste ? Alors il dit à Jérusalem, oui, à Tel Aviv, non. À Tel Aviv, il fait très chaud, les gens vont voir des gens importants aussi en petite chemise, en chemise blanche, ça va comme ça. À Jérusalem, non, l'habitude est de mettre aussi une veste. Donc chacun, par rapport à l'endroit où il est, il doit voir comment lui-même serait allé dans les cadres des mœurs de son endroit, comment il serait habillé, et comme ça il doit prier devant Hachem. C'est important non seulement par rapport à Hachem, mais aussi par rapport à nous-mêmes. Sinon on se rend compte maintenant qu'on va prier devant Hachem et qu'on doit s'habiller en conséquence, ça nous aidera à avoir une meilleure kavana, une meilleure intention, compris devant le roi des rois. Ensuite, comment est-ce qu'on se tient ? Donc on a déjà dit, on s'obtient les pieds joints. Il est impératif d'avoir les yeux fermés. Si quelqu'un pense qu'il peut mieux prier en regardant les mots dans le sidour, alors on permet de regarder dans le sidour.
Pour la Amida ?
Pour la Amida, je parle uniquement pour la Amida. Hein, pardon ?
Vous connaissez par cœur, sinon ?
Sinon, d'habitude, au bout d'un moment, tout le monde la connaît par cœur. À force de la répéter 3 fois par jour, avec intention, on la connaît rapidement par cœur. Il y en a qui, bien qu'ils la sachent par cœur, lorsqu'ils lisent dans le sidour, ils ont une meilleure kavana, une meilleure intention. Ils ont le droit de regarder dans le sidour. Mais, chas et shalom, à Dieu ne plaise, de regarder une seconde même hors du sidour. Sans cesse dans le sidour. Et quand il se prosterne, il doit fermer les yeux. Parce que quand il se prosterne, il y a le sidour comme ça, d'accord ? Tu le mets ici, donc qu'est-ce que tu regardes ? Le plancher devant toi, ça ne va pas. On n'a pas le droit d'ouvrir les yeux durant l'amida, si ce n'est pour le sidour. Le Zohar à Kadosh, il dit que celui qui ouvre les yeux pendant l'amida, alors il anticipe la venue de l'ange de la mort, chas et shalom. Et quand il mourra, il ne pourra pas voir la shrina. Non, là, il ne pourra pas voir la shrina parce qu'il a ouvert les yeux ici. Évidemment, c'est une fois, il a ouvert les yeux une seconde. Ça va, c'est pas grave. Il y a des gens qui sont habitués comme ça. Ils font leur amida, ils regardent un peu à gauche, à droite, comme si... Non, on est les yeux fermés face à Hachem. Si on ne peut pas avoir les yeux fermés, on peut regarder dans le sidour, mais que dans le sidour. Maintenant, comment est-ce qu'on se tient ? La tête baissée un peu, comme un serviteur devant le roi. T'es pas comme ça, t'es comme ça. Pas trop non plus, un peu. Et si possible, c'est bien de le faire, j'ai vu peu de gens le faire, mais comme ça dit le Ben Israël, le Kafar Haïm, on met la main gauche avec le pouce comme ça à l'intérieur, et le pouce aussi comme ça à l'intérieur de la main droite, on met la main gauche sur le cœur et la main droite sur la main gauche, comme ça, comme un serviteur devant son maître. Comme ça, les yeux, la tête un peu baissée, voilà, les pieds joints. Comme ça, on prie. Le cœur dans le ciel. Pas dire que je fais une opération cardiaque, c'est-à-dire que je dois être bien que je suis ici en bas, mais mon corps est là-haut, je suis proche d'Hachem. Si on fait ces choses-là, d'habitude, ça aide beaucoup aussi dans l'intention de l'Amida, et c'est comme ça qu'on doit prier. Boker Tov, nous sommes en train de voir comment on doit prier au niveau de notre comportement corporel. Alors, quand on fait la Amida, on doit être droit devant Hachem, les pieds joints, on a déjà vu cela. Et on ne peut pas s'appuyer. Faire attention à cela. Parce que des fois, on a tendance à vouloir un peu s'appuyer. Et défense de s'appuyer. C'est quoi s'appuyer? Je peux toucher un objet, une table ou un mur qui est à côté de moi. Mais s'appuyer signifie que si on enlève le mur, on enlève la table, je tombe. D'accord? On ne peut pas s'appuyer. Si quelqu'un est malade, vieux, il ne peut pas faire autrement, c'est ou ça ou rien, il peut s'appuyer. De même, si quelqu'un ne peut pas se lever, il peut faire sa prière assis. S'il ne peut pas être assis, il peut être couché sur le côté. Si possible, on le mettra sur le côté pour prier, et pas quand il est sur le dos ou sur le ventre.
On peut se courber.
C'est-à-dire courber.
Quand je fais ma prière, des fois, je prie comme ça.
C'est bon. On peut pas, si on est vraiment prosterné comme ça, on peut le faire, mais au début et à la fin de chaque bracha, faut se lever. Pour pas qu'on soit considéré comme si on se prosterne au début et fin de brachot, excepté la deuxième et l'avant-dernière, la première et l'avant-dernière, où on doit se prosterner. On se prosterne quatre fois durant l'amida. Début et fin de la première, début et fin de l'avant-dernière. Pour bien montrer que c'est différent de la première et de l'avant-dernière, alors on peut faire toute la prière prosternée, sauf le début et la fin de chaque bracha, à part la première ou la deuxième, ou la première et l'avant-dernière, où là on devra être prosterné. Attention, cette interdiction de s'appuyer concerne aussi quand on lit la Torah. Quand on lit la Torah, et le lecteur de la Torah et celui qui est monté à la Torah et qui ne lit pas, doivent rester debout, ne pas s'appuyer. Et quand on a un Sefer Torah Sfarad, il y a tendance à s'appuyer. Parce qu'il est posé sur la table comme ça. L'Ashkenazim, il prend toute la table, le Sefer Torah. Donc on ne va pas s'appuyer, on est debout en face, ça va. Le Sfaradim, on le tient comme ça. Des fois, quand la Bima est un peu haute, ou des fois, par exemple, quand le Sefer Torah, la Bima est un peu haute, je peux me laisser aller un peu haute, enfin, la table est un peu haute, je peux m'appuyer dessus. Des fois aussi, quand on lit en bas du Sefer Torah, on veut se baisser comme ça, c'est dur d'être comme ça, alors on s'appuie. Et le lecteur s'appuie, ou nous aussi, on s'appuie. Et là, il ne faut pas. Donc, faire attention de bien rester debout sans s'appuyer.
C'est plus ashkénaze, c'est vraiment rouleau comme ça.
C'est la coutume ashkénaze, qui, je crois, a été aussi importée dans certains pays d'Afrique du Nord, où vous avez une plus grande influence ashkénaze que Sfarad. Les grands poskim Sfarad, ils étaient dans la région ici, pas tous, mais quand on parle de le monde Sfarad oriental, c'est ici, la terre d'Israël et ses alentours. Au Maroc, par exemple, c'était très dur pour eux d'avoir les psakim, des décisions pratiques des rabbins d'Israël, c'était très très loin, c'était beaucoup plus simple pour eux de poser leurs questions aux sages d'Espagne, qui étaient sous influence ashkénaze. Le Roche, qui est le plus grand possèque ashkénaze, il a fui l'Allemagne. Son rave, Maram Rothenburg, a été kidnappé par l'empereur Rodolphe de Habsbourg contre une rançon. La Lacha interdit de libérer quelqu'un contre une rançon plus grande que ce qu'il vaut. Donc, bien que les Juifs ont récolté la rançon, Maram Rothenburg en prison a refusé de sortir pour ce prix-là. Pourquoi ? On connaît la valeur plus ou moins de que c'est. Le Talmud dit c'est la valeur d'un esclave dans le marché des esclaves. D'accord ? Alors, pour Maram Rothenburg, en tant qu'esclave, combien il vaut ? Il ne vaut pas sa valeur qu'il a, au niveau de ce qu'il est. C'était un des plus grands rabbanim ashkénaz. Et la logique des choses est très simple, c'est que si on accepte de payer la rançon, alors ça devient un sport. Commencer à kidnapper les Juifs pour faire de l'argent. Donc, Chazal, on dit, on ne paye pas. Donc, le Roche, pour finir, Maram Rothenburg est mort en prison. Et les Goïms ont voulu aussi une très grande rançon pour accepter de donner le corps du Rav. Et les Juifs ont refusé, suivant le même principe. Donc, ses ossements sont restés dans la prison encore longtemps. Et quelques années plus tard, pour finir, on a réussi à récupérer et l'enterrer. Le Roche, son élève voyant cela, Rabbeinu Asher, on appelle le Roche, il a fui l'Allemagne, est allé en Espagne. Là-bas, donc, il a écrit beaucoup de ses grands livres, et son fils qui était le tour, Rabbi Yaakov Ben Asher Balatourim, aussi qui est un des grands poskim, donc était aussi en Espagne. Donc très souvent, les communautés d'Afrique du Nord, du Maroc spécialement, ont des coutumes qui sont en fait d'origine ashkénaze, que les communautés orientales n'ont pas acceptées. C'est pour ça que, par exemple, le Sefer Torah, ils l'ont aussi enroulé comme ça, et pas comme on l'a nous, si je ne me trompe pas. Boker Tov. On continue d'étudier maintenant comment on doit se tenir au niveau de notre corps quand on fait la prière. Quand on est assis à la synagogue, il n'y a pas de problème, on peut lire assis, il n'y a pas de problème. Simplement, faire attention, comme ça stipule l'halakha, de savoir quand même qu'on est dans la maison de Dieu, et on doit se comporter avec respect et crainte. Ça veut dire, quelqu'un qui se met par exemple comme ça, avec les pieds presque à chaise longue, d'accord, pépère, ou bien un pied sur l'autre. Certains décisionnaires ont interdit. Le Rav Odia Yosef, il a écrit une réponse à ce qu'on n'a pas le droit d'être comme ça à la synagogue, mais elle n'a pas été imprimée dans ses livres, elle a été imprimée dans un sidour de son fils qu'il a sorti, d'accord. C'est un truc qui, heureusement, parce que c'est très dur, beaucoup de gens, quand ils étudient, mettent un pied l'un sur l'autre. J'ai demandé d'autres postes qui m'ont dit que c'était permis, donc pas tout le monde est d'accord là-dessus. Mais tous sont d'accord, quand on prie, je suis en train de prier maintenant, je fais Psouké des Imra, Ashore Shvetecha, ou Valet Zion, ou encore plus forte raison, Shema Israël, je ne peux pas maintenant être en train de prier devant Dieu et avoir un pied l'un sur l'autre. C'est un manque de kavod, un manque de respect et de crainte de Dieu. Idem, être sur le côté, comme si on est le soir de Pessah, d'accord, pépère, comme ça tu fais ta prière parce que tu es fatigué. Non, on doit être comme si tu es devant quelqu'un, un directeur, tu lui parles, tu vas pas, tu es devant lui maintenant, tu as un interview d'embauche, d'accord, tu ne te mets pas un pied sur l'autre, tu ne te mets pas non plus de côté, ni sur le dos, tu es en...
croiser les jambes.
Je parle de croiser les jambes, exactement. Si c'est le bout des jambes, ça va, mais si c'est cuisse sur cuisse, ça va pas.
Cuisse sur cuisse, ça va, et le pied sur pied.
Pied sur pied, ça va, c'est pas... Ouais, pied sur pied, c'est
ça.
Excusez-moi, quand je veux dire pied sur pied, je parle de toute la jambe. D'abord, en hébreu, le mot pied et le mot jambe, c'est le même mot. Quand on fait la Amida, on n'a pas le droit de tenir dans sa main une chose que si elle tombe, ça va nous déranger. Du genre, par exemple, des tefilines. Ou un livre de Torah, si on ne l'utilise pas pour le lire dedans. Si c'est un sidour, on l'utilise pour lire dedans. Mais si on ne l'utilise pas, maintenant, je ne sais pas où le mettre, je le tiens sur moi. Vu qu'il reste tombé, quelque part ça occupe ma pensée, il faut que ma pensée soit complètement libre pour me concentrer dans la tfila. Si jamais on a transgressé cela, ou bien on prend notre sidour, c'est permis, on lit dedans, tout d'un coup le sidour il est tombé, qu'est-ce qui se passe? Si on peut continuer à prier sans que ça nous dérange, le sidour est tombé, ben, qu'il reste par terre et moi je continue ma prière avec la même sérénité, c'est mieux comme ça de ne pas le ramasser. Mais c'est difficile, ça nous dérange d'habitude. Alors si ça nous dérange, alors on attend qu'on finisse la bracha. Il faut qu'on finisse la bracha, on se baisse sans quitter, les pieds restent toujours à la même place. On se baisse, on ramasse le sidour. C'est permis. Idem si des gens nous dérangent, d'accord? Alors on a le droit de faire on peut pas faire un... Il y en a qui disent chat, d'accord? Ou ni, d'accord? Ce sont des expressions en hébreu, de faites-moi de bruit, ou bien du genre d'accord, mais si on prononce ni ou cha, ça va pas, parce que ce sont des mots déjà. Faire comme ça, on peut. Mais on le fera entre deux brachot, pas au milieu d'une bracha. Il aime aussi, on n'a pas le droit durant la prière de bailler. Tu es devant Hachem, tu ne vas pas bailler. Si jamais on ne peut pas s'empêcher, alors si on peut bailler, la bouche fermée, c'est possible, ceux qui savent le faire, alors c'est préférable. Sinon, on a ouvert la bouche, on met la main devant la bouche, et surtout, quand tu ne peux pas prier. Il y en a qui prient, « Atta Gibor HaMashem »« Ti Matarav L'Hoshad » d'accord, et continue comme ça. C'est pas kavod pour Hachem de... Et il y a une tendance à faire cela, d'accord? Non, on s'arrête, on baille, après on recommence. Idem si on a toutes sortes de besoin de tousser, besoin de faire de roter, d'accord? On s'arrête, on fait ce qu'on doit faire. Si on peut faire autrement, ne pas le faire, c'est mieux. Si on ne peut pas se retenir, alors on fait ce qu'on a à faire. On attendra après le temps de marcher 2 mètres, c'est-à-dire environ 2 secondes, et on reprend. Pas que c'est parti de la prière, d'accord? Tagibor la machine, burk, et après on continue comme ça, on ne peut pas...
Si on sent qu'on va retourner, on peut nous donner à Hachem de ne pas nous faire voter pendant notre prière.
Et... Pendant la prière, je ne sais pas, c'est au mieux d'une bracha, comme si tu vas tout faire...
Non, mais de lui demander d'avoir encore plus de crainte, de respect, justement de ne pas...
Si tu es dans le chômage de fil, au bon endroit, on peut intercaler les prières personnelles, oui. Sinon, non. Baruch Adonai, Amen, Amen.